Mauricie se lève. Votre source d'information le matin. Voici Catherine Godreau. Que la Mauricie se lève. Au 106.9 Mauricie.
Il est expert en cybersécurité. Bonjour Steve.
Bonjour Catherine.
Bonjour. De ce que je comprends, puis ça m'est raconté par d'autres personnes ce matin, on dirait que c'est pourquoi beaucoup les jeunes qui sont ciblés par ces vols d'identité-là?
Bien, à travers le pays aussi, je voulais juste souligner, Catherine, c'est pas juste au Québec, mais oui, effectivement, ouais. Il y a plusieurs jeunes qui ont été là-dedans ciblés. Mais je crois plutôt que ce soit le type de numéro d'assurance sociale, parce qu'on est capable d'établir des patterns à travers les numéros quand on les regarde. On peut savoir vers quelle année qui a été produit. Donc, je serais d'avis à dire que les fraudeurs, ben, vu qu'ils ont été ciblés des jeunes travaillants, ils n'ont pas trop d'antécédents et ça apporte la confusion, comme expliquait monsieur tantôt, concernant à retracer les allées et venues de son garçon. Je parle par l'agence de Service ouais. Canada, qui, eux, à ce moment-là, ben, ils essaient de figurer et comprendre tout ça. Puis c'est weird parce que ça fait quand même un an que c'est discuté, c'est apporté qu'il y aurait des problématiques de cette nature-là. Ben, presque un an. Et là, on se retrouve avec le panier de câble aujourd'hui.
OK, mais donc, dis-moi, parce que bon, là, c'est avec Service Canada, il y a visiblement, ça touche beaucoup de monde, mais donc, il n'y avait pas de possibilité que tu le saches avant de recevoir un T4? Donc, la plupart des gens apprennent ça maintenant parce que là, on s'approche de la période des impôts. Avant ça, tu pouvais pas le savoir si ton identité avait été volée pour faire une demande de PCU?
La difficulté, je crois, réside dans le fait de comprendre qui est légitime ou pas. Au bout de la ligne, parce que tout le monde, on a vu le programme, il était très généreux, oui, merci gouvernement, ça allait aider tout le monde à avoir un petit répit côté effondrement économique, mais là, présentement, c'est rendu à l'étape justement de trier le faux du vrai, parce que là, eux autres, l'important c'était d'aider tout le monde, et dans ce ménage-là, ben ils sont vraiment à la case départ pour dire, bon ben, présente-nous les preuves, encore une fois, le fardeau revient aux citoyens de prouver que c'est pas lui qui en a fait une demande frauduleuse ou une demande frauduleuse a été faite en son nom, comme on parle ce matin. Et c'est là que les agents, un, sont pas assez nombreux. Deux, le méthode d'agissement, veut dire, c'est quand même assez long. Puis trois, les institutions financières, eux autres, ils ont fait rouler la machine. Autrement dit, ils n'ont pas vérifié justement qui était le client qui venait déposer quoi que ce soit. Je veux dire, ils sont pas là pour qualifier les transactions financières non plus. Mais ils sont là aussi pour, s'il y a un compte qui a été créé, donc d'un client à la banque, généralement, il y a des preuves d'identité qui sont faites, ça marche ici de même. Ça ne devrait pas être sorcier d'aller retracer la personne qui a fait les encaissements.
OK, mais Steve, mettons que là, donc les gens qui nous écoutent, à qui c'est arrivé, là, ça te prend quoi pour prouver que c'est pas toi qui as fait la demande? Quelles sont les pièces justificatives dont tu as besoin?
Ben, tout premièrement, c'est d'avoir été porté plainte à la police. Je ne sais pas si on fait affaire avec le service de police locale ou la Sûreté du Québec, dépendamment de la localité. Parce que à ce moment-là, c'est une déclaration sous serment devant un agent de la paix, et ça, c'est punissable par la loi si jamais tu fais une fausse déclaration. Déjà là, c'est une première étape. Deuxième, d'avoir rapporté ça au Centre antifraude du Canada, c'est parfait, parce que là, à l'échelon national, là, ils ont une statistique, puis le Centre antifraude, là, c'est très rare, Catherine, qui rêve. Les gens. C'est pour ça que je ne suis pas surpris, moi, d'entendre qu'ils n'ont pas rappelé à personne. Et après coup, ben là, le Centre antifraude voudrait peut-être qu'il les fasse aller, parce que je ne l'ai pas su en arrière-plan qu'ils font bouger ben, des dossiers comme ça présentement de PCU, mais ce serait à eux de coordonner avec Service Canada, d'être capable à ce moment-là de dire aux agents, garder, mais généralement, ils ne gardent pas le nom, ils gardent des statistiques. La région d'où est arrivé un crime, la teneur, autrement dit, la valeur du crime, puis après ça, la date, etc. Donc, c'est des statistiques génériques. Il n'y a pas le nom du citoyen. Fait que c'est pour ça qu'on en revient à Service Canada, puis il faut qu'ils reprennent le dossier à zéro, malgré qu'ils savent l'ampleur de la situation, mais ils ne savent pas qui et où, et c'est pour ça que, à ta question, il faut qu'il se doit, le citoyen se doit de redoubler d'efforts, de prouver qui il est. Fait que s'il y a une pièce d'identité comme un passeport, après ça, puis aller en personne, ça aurait été plus facile. Mais là, à distance, comme on est là en restriction pandémique, c'est ça qui rend le processus complexe, parce que là, il faut t'envoyer des copies d'eux, mais on pourrait être très bien, toi et moi, Catherine, en train de prouver nos identités, puis on a pris la photo, puis le nom de quelqu'un d'autre, puis ça ressemble étrangement à ce qu'on clame. Fait que c'est pour ça que les agents, les fonctionnaires font très attention.
OK, mais en terminant là-dessus, On dirait que les gens ont l'air un peu mêlés. Je dis pas que c'est l'ensemble des employés, mais c'est tantôt Alain nous dit, ben là, il y avait de la misère à juste à prouver que c'était bien mon garçon. Là, il a fallu qu'il me rappelle là-dessus. Oui. Moi, on est pas mal à la base de, on est loin de régler le problème. Si tu as de la misère à établir que c'est bien son garçon, on est donc bien mêlés.
Ben, il y a un manque de rigueur certain parce que c'est pas une première fois. Il faut que prouver l'identité de quelqu'un comme ça au téléphone avant de passer avec de l'information privilégiée. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui se trame en arrière-plan chez Service Canada, mais définitivement, il y a un coup de barre, il faudrait que ça soit donné pour que ça soit plus rapide et en même temps plus rigoureux.
Oui, tout à fait. Steve, avant de te laisser partir, on apprend ce matin via le Journal de Montréal que les policiers ont passé 4 jours et 3 nuits dans les bureaux de Desjardins à Montréal pour mener une perquisition. On dit une discrète perquisition la semaine dernière. C'est en lien avec l'enquête sur le vol massif de données personnelles des clients du mouvement. Du moins, ça finit plus de finir. Et pourquoi cette perquisition-là, on fait ça discrètement? Qu'est-ce que tu en comprends?
Ben, j'en comprends, c'est une aberration pure et simple, Catherine, parce que imagine-toi de s'arrêter une PME typique là, du coin qui aurait agi dans cet ordre-là. Ça n'a pas de sens. Ouais. Fait que l'idée là-dedans, c'est que les services de policiers n'ont pas de preuves parce que Desjardins ont saisi la preuve principale avant que les services policiers aient contre l'avis de leurs avocats, ce qui fait en sorte que le seul sujet d'intérêt qu'on a vu qui s'est fait remercier dans son emploi, ils ont même pas de preuves qu'ils peuvent amener en cours pour accuser cette personne-là. Fait que ils ont eu, dans le cadre de leurs enquêtes, les policiers, les 3 corps policiers ont dit voici, on a de l'information, puis ça, pour qu'ils ont été là avec un mandat. Pour présenter le mandat, il faut qu'il y ait une raison au juge, puis ils lui expliquent le procédé. Et ils ont pu, à ce moment-là, se faire donner autorisation d'y aller. Mais par contre, qu'ils soient restés sur place, c'est pas surprenant, parce que faire une preuve informatique, c'est long et complexe, faut pas que tu fasses d'erreur. Et en plus, ben, quand tu quittes les lieux d'une perquisition, ton mandat est fini. Ça, eux autres, il fallait qu'ils demeurent sur place pour être en mesure d'aller chercher tout ce qu'il y avait de besoin avec la collaboration des gens là-bas par l'entremise du mandat judiciaire. Fait que ce qui fait en sorte qu'ils vont chercher quelque chose qu'ils se sont fait donner un filon, ben, qu'ils ont déduit qu'il y avait l'information nécessaire qui pourrait les aider à amener peut-être une accusation devant tout le monde. Mais encore une fois, ça démontre que Desjardins ne collabore pas facilement avec le processus judiciaire.
OK.
C'est une aberration.
OK, je suis assez d'accord. Moi aussi, je l'interprétais comme ça. Je me disais, voyons, il me semble, c'est. Puis ça finit plus de finir. Alors, on comprend qu'il n'y a pas une grande collaboration. Merci, Steve, d'avoir été là ce matin.
C'était un plaisir. Bonne journée.
Merci. Bye-bye. Steve Waterhouse, expert en cybersécurité.